On va lire un texte en introduction, 2 Samuel chapitre 6 du verset 12 à 23. 2 Samuel chapitre 6 du verset 12 jusqu'au verset 23. Avez-vous trouvé? Pouvons-nous commencer? Alors nous lisons ensemble. Ce qui est derrière mon dos au niveau du vidéoprojecteur. On vint dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Edom et tout ce qui est à lui, à cause de l'arche de Dieu. Et David se mit en route et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Edom jusqu'à la cité de David, au milieu des réjouissances. Quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait 6 pas, on sacrifia un bœuf et un veau gras. David dansait de toute sa force devant l'Éternel, et il était ceint d'un éphod de lin. David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son des trompettes. Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre et, voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. Après qu'on eut amené l'arche de l'Éternel, on la mit à sa place, au milieu de la tente que David avait dressée pour elle. Et David offrit devant l'Éternel des holocaustes et des sacrifices d'actions de grâce. Quand David eut achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices d'actions de grâce, il bénit le peuple au nom de l'Éternel des armées. Puis, il distribua à tout le peuple, à toute la multitude d'Israël, hommes et femmes, à chacun un pain, une portion de viande et un gâteau de raisin. Et tout le peuple s'en alla, chacun dans sa maison. David s'en retourna pour bénir sa maison, et Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre. Et elle dit, « Quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux des servantes de ses serviteurs, comme se découvrirait un homme de rien !» David répondit à Michal, c'est devant l'Éternel qui m'a choisi, de préférence à ton père et à toute sa maison pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel, sur Israël. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Je veux paraître encore plus vil que cela et m'abaisser à mes propres yeux. Néanmoins, je serai en honneur auprès des servantes dont tu parles. Or, Michal, fille de Saül, n'eut point d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Amen. Je pense qu'on a au moins lu ce texte au moins une fois dans notre vie chrétienne. Peut-être certains, c'est pour la première fois. Et le partage de ce matin sera, vous l'avez compris, quelque peu différent par rapport à ce que j'avais partagé il y a déjà 2 dimanches de cela. Rappelez-vous, lorsqu'on a fait mention de quelques femmes de la Bible qui ont été remarquables de par leur foi qu'ils ont mis à bien valoir. Aujourd'hui, ce sera différent. J'aimerais, de ce texte que nous venons de lire, faire avec vous 3 constats. 3 constats alarmants, 3 constats inquiétants concernant l'attitude de cette femme qui était ni plus ni moins l'épouse de David concernant l'attitude de Michal. Alors je le précise dès à présent, non pas pour faire un procès à cette femme, non, loin de là. Mais que par cette lecture, cette méditation ce matin, que cela nous puisse nous permettre de continuer sur le chemin de la sanctification. Que cela puisse nous donner, recevoir enseignement de la part du Saint-Esprit ce matin. Donc j'ai parlé de 3 constats. Le premier constat, il est tellement flagrant que nous pourrions, je pourrais même vous demander de quoi il est fait mention. Alors peut-être au niveau du contexte, le rappeler, David, avec tout le peuple d'Israël, accueillait l'arche de l'Alliance, l'arche de l'Éternel, au sein même de la ville de Jérusalem, la cité de David, comme elle est appelée. Et il y avait bien sûr une grande joie, mais on l'a lu au travers de ce texte précédemment, c'est que Michal, l'épouse de David, elle est restée depuis sa fenêtre, à regarder tout ce peuple en joie. Et le premier constat flagrant que nous pourrions faire concernant Michal, est reliée à une question. Et la question, c'est la suivante. Pourquoi Mical n'était pas avec tout le peuple à se réjouir de ce que l'arche de l'Alliance, l'arche de Dieu, entre dans Jérusalem? Et je l'ai dit, il faut qu'on réalise, qu'on se remette dans ce contexte. L'arche de l'Alliance représentait symboliquement la présence même de Dieu. D'ailleurs, à un moment donné, même les Philistins ont cherché à récupérer cette arche. Partout, cette arche allait au-devant du peuple d'Israël, il y avait la victoire. Dieu était avec son peuple. Et David était réjoui de pouvoir accueillir enfin cette arche dans la cité de David, c'est-à-dire la ville de Jérusalem. Et là, je reviens avec cette question. Pourquoi Mical avait-elle choisi de vivre ce moment historique depuis sa fenêtre? Et non au milieu des cris de joie. Et non au milieu du peuple. Non au milieu des sons des trompettes, comme le rapporte le texte, comme nous l'avons lu tout à l'heure. C'est depuis sa fenêtre qu'elle a choisi de pouvoir se réjouir. Peut-être, je m'imagine, le texte ne le précise pas, peut-être que son entourage, a commencé par David, son époux, lui dire « Mais viens avec nous, même au moins 5 minutes, en tout cas ne reste pas à l'écart. » Non, Mical, quelque part, a choisi de vivre ce merveilleux événement un peu à l'écart de la foule. Et cela me rappelle un petit peu un texte de l'Ancien Testament, Proverbes chapitre 18 et le verset 1. Vous connaissez ce texte mieux que moi-même. Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Et il s'irrite contre tout ce qui est sage. Mais voyez-vous, par rapport à ce texte qu'on vient de lire, ce verset, nous ne cherchons pas ce qui nous plaît, mais nous cherchons ce que Dieu désire, ce qui plaît au cœur de Dieu. Et il est bon quand le peuple de Dieu se rassemble et se réjouit dans la communion fraternelle, comme ça a été effectivement rappelé dimanche dernier. On a besoin de ne pas faire ce qui nous passe par la tête, mais faire ce que Dieu nous demande de faire. C'est pourquoi, quelque part, je me pose la question concernant Mical. Mical était-elle au bon endroit? Est-ce qu'elle était au bon endroit, à la bonne place? Je n'en suis pas si sûr. Et je me rends compte avec vous que lorsque nous ne veillons pas, nous ne cherchons pas à savoir où est la bonne place, premièrement, nous risquons de passer à côté de tellement de bénédictions. Et puis deuxièmement, dans certains cas, nous nous exposons à de fâcheuses conséquences. Allez par exemple demander à David, puisque c'est ce qui va se passer bien plus tard, quand il a commis l'adultère avec Bathsheba, il était où? La Bible précise, et c'est le temps qui nous manquerait pour relire ce texte, il nous est dit que c'était un temps où les rois se mettaient en campagne. Mais lui, David, lui, il a choisi de rester chez lui tranquillement. Il a envoyé son général en chef, c'est-à-dire Joab, avec tout son armée, aller combattre les ennemis. Moi, je reste à Jérusalem. Et c'est dans ce contexte-là qu'il était au mauvais endroit, au mauvais moment. Pour citer un autre exemple, c'est celui de notre ami, le grand prophète Élie, celui qui avait cette foi grande, cette grande foi pour même appeler le feu du ciel pour qu'il consume l'holocauste qui était là, présenté. Ce même Élie, quand il a connu le découragement, avec la force que Dieu lui a donnée, il est parti sur une montagne, la montagne à Horeb. Et la Bible précise qu'il est parti et il s'est isolé dans une caverne. Mais c'est là où on voit la bonté de Dieu qui est venue à plusieurs reprises attirer l'attention de Dieu parce que Dieu est passé, alléluia, devant Élie. Et lui a posé une question, même à 2 reprises, en lui posant cette question. Et Dieu a dit à Élie, « Élie, que fais-tu ici ?» À 2 reprises, vous relirez ce texte tranquillement dans le livre des Rois. « Que fais-tu ici, Élie ?» C'est important de pouvoir s'analyser et voir si nous sommes au bon endroit, à la bonne place. Aussi, à l'encontre, nous cherchons à nous mettre à l'écart, nous isoler pour une raison ou pour une autre. Nous avons besoin de veiller à toujours être au bon endroit et j'ose dire être aussi au bon moment. Voilà le premier constat. Mical, de sa fenêtre, elle vit un événement qui est des plus exceptionnel ou même historique, mais elle choisit de rester chez elle. Et comprenez qu'elle n'était pas juste au rez-de-chaussée, elle était là dans sa haute tour à regarder, bien sûr, avoir une vue d'ensemble de ce qui se passait. Un deuxième constat que je peux faire avec vous, c'est que Mical n'avait pas non plus la bonne vision. C'est toujours depuis sa fenêtre que Mical fixa les regards sur l'attitude de son mari, l'attitude de David. Elle est là, elle approche son visage de la fenêtre et elle voit son propre époux commencer à sauter, à danser, et vêtu d'une manière légère avec un éphod de lin, à sauter et à danser devant l'Éternel. Elle a fait une fixation sur l'attitude de son mari. Elle a fait une fixation sur le vêtement même de son mari, au point même d'en oublier l'essentiel, au point même finalement d'en oublier tout le reste. Et je le dis franchement, je n'ai pas vraiment l'impression que Mical se sentait pleinement concernée par ce qui se passait. Non, elle avait plutôt fait une fixation sur le comportement de David et sur son vêtement. Elle n'avait pas la bonne vision. Elle n'avait pas vu que David, s'il a fait toutes ces choses, c'est parce qu'il était plein d'amour, plein de joie, plein de reconnaissance vis-à-vis de son Dieu. Elle n'a pas vu les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce que fit David à l'Éternel. Elle n'a pas vu non plus que David a béni tout le peuple au nom de l'Éternel. Elle n'a pas vu non plus que David a eu à cœur de pouvoir, d'une manière généreuse, donner un pain. On l'a lu ensemble. Un pain, quoi d'autre ? Une portion de viande et quoi ? Un gâteau de raisin. Ah, j'aurais aimé être là, au peu cher. Tout le peuple, toute la multitude, la Bible nous dit, toute la multitude d'Israël ont reçu sa portion. Et la Bible nous dit que à ce moment-là, David, après avoir béni le peuple, s'en retournait pour bénir sa propre maison. Et tout ça, Mical ne l'a pas vu. C'est pourquoi, là encore, il y a des questions. Quand je lis ce texte, je suis interpellé en long, en large, concernant Mical. Était-elle sur la même longueur d'onde que son mari ? Était-elle en phase avec tout le peuple de Dieu qui se réjouissait de voir l'arche de l'Éternel, l'arche de Dieu, prendre place au cœur même de Jérusalem ? Je transpose. Frères et sœurs, n'attendez pas des incroyants qu'ils aient la même vision que vous. C'est juste impossible. Vous savez, l'homme naturel, il va mettre l'accent sur ce que ses yeux peuvent voir. L'homme spirituel, il mettra l'accent sur les choses spirituelles, des choses que bien souvent l'œil ne peut voir. Et d'ailleurs, il y a ce passage qui le confirme. C'est ce que va rappeler Dieu lui-même à travers son prophète Samuel concernant un fameux Éliab. Vous savez, à un moment donné, Dieu dépêche, envoie Samuel pour aller dans la famille d'Isaï pour aller chercher un nouveau roi. Et un premier fils vient apparaître devant Samuel et comme il le voit qu'il est bien bâti, bien costaud, il va dire « c'est lui le futur roi ». Et qu'est-ce que Dieu va dire ? 1 Samuel chapitre 16 et le verset 7, on le lit ensemble. « L'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas, et c'est là l'enseignement pour nous, l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Mais l'Éternel, qu'est-ce qu'il fait ? Il regarde au cœur. Ce matin, ce qu'il regarde, c'est notre cœur. Souvent, nous focalisons sur les apparences. On peut pointer du doigt Mical, mais combien bien souvent, je suis à la sortie, certains vont dire « Oh, on a passé un merveilleux moment, Dieu m'a parlé, etc. » Et d'autres vont focaliser parce que la clim était trop forte ou pas assez forte. Dieu regarde au cœur. Dieu regarde ce que nous ressentons de l'intérieur. Dieu connaissait le cœur de David. Il connaissait aussi le cœur de Mical. En fait, ce qui importait à Mical, c'était l'apparence physique de son mari David. Et aussi de ce que pouvaient penser les autres. Ça, c'est un gros problème. Le regard des autres. L'influence que peut avoir le regard des autres sur notre personne. Mais voyez-vous, pour David, tout cela n'avait aucune, et c'est, je souligne, n'avait aucune importance. Lui, ce qu'il importait, c'était le regard de Dieu sur sa vie. C'était Dieu qui l'intéressait. Et on le voit bien quand il dit lui-même, toujours 2 Samuel, chapitre 6, et le verset 21, quand il répond à sa femme, bien plus tard, David répondit à Michal, et il va dire, c'est devant l'Éternel qui m'a choisi, de préférence à ton père, et à toute sa maison pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel, sur Israël, c'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Je veux paraître encore plus vil que cela, et m'abaisser à mes propres yeux. Frères et sœurs, faisons toujours les choses, tout comme David, devant l'Éternel. Faisons les choses pour Dieu. Et non pas bien pour les autres, pour qu'ils voient ou qu'ils ne voient pas, peu importe. C'est pour ça que le Seigneur, il nous dit, lorsque vous priez, ne vous faites pas remarquer. Restez tranquille. Le Seigneur, il voit vos cœurs. Et surtout, il voit la foi que vous allez mettre à valoir. Et le Seigneur, il fera le reste. Voilà, nous venons de voir déjà deux constats. Hein. Ça ira très vite ce matin. Deux constats concernant donc notre cher ami Michal. Premièrement, à mon sens, elle n'était pas au bon endroit, juchée en haut de sa fenêtre. Deuxième constat, Michal n'avait pas non plus la bonne vision. Elle focalisait sur quelque chose qui pouvait peut-être paraître secondaire. Et encore, ça se discute. Elle ne regardait pas à l'essentiel. C'est que l'arche de Dieu entrait dans la ville, alléluia, de Jérusalem. Deux constats concernant Michal. Et ces deux constats vont immanquablement nous amener à un troisième et dernier constat. Quel est ce constat ? Qui parle un peu plus de, bien sûr, l'attitude de Michal. Michal n'avait pas la bonne attitude. En effet, on l'a lu, et c'est un verset clé, Michal méprisa David dans son cœur. Est-ce que vous pouvez me permettre, pendant quelques instants, de parler sur le mépris, qui est un fléau, qui est quelque chose à pouvoir ôter, extirper de nos cœurs, puisque nous sommes dans un contexte où Dieu nous appelle à la sanctification. Et on a besoin de pouvoir localiser ce mal qui ronge et qu'on appelle le mépris. S'il faut donner une définition du mépris, le mépris, c'est ce sentiment par lequel on considère quelqu'un ou quelque chose comme indigne d'estime, comme moralement condamnable. Le mépris, c'est un sentiment, excusez-moi l'expression, inodore. Un sentiment difficile à cerner. Et nous, on le voit bien quand on lit ensemble, Michal méprisa David où ? Dans son cœur. Ce n'était pas quelque chose qu'on pouvait entendre, qu'on pouvait voir, encore moins sentir. Le mépris, c'est quoi ? C'est peut-être saluer quelqu'un et ne pas savoir que cette même personne vous méprise depuis longtemps. C'est ça ou c'est pas ça ? Le mépris peut être le fruit d'autres sentiments, tout aussi condamnables. On en arrive au mépris à cause de la jalousie. On peut arriver au mépris à cause de l'orgueil ou d'un regard hautain. On peut arriver au mépris à cause d'un manque de compassion ou de miséricorde. On dit que l'indifférence est le plus grand des mépris. Avez-vous déjà entendu cette réalité ? C'est une réalité. Le mépris, c'est souvent le résultat d'un jugement. Un jugement que nous allons porter sur une personne ou sur une chose. Et pour revenir à notre texte, on le voit bien, Michal méprisa David. Pourquoi ? Parce qu'elle jugeait inadéquate la façon que David se comportait, la façon que David louait son Dieu. Michal a été amené à pouvoir mépriser son propre conjoint. Pourquoi ? Parce que Michal jugeait que le vêtement que David a choisi, c'est-à-dire donc les fautes de l'un, ne se prêtait pas à la circonstance. Oh, elle aurait aimé que David puisse venir en grande pompe avec ses vêtements royaux, les yeux révulsés, les mains joints, introduisant l'arche dans un grand silence. Mais ce n'est pas ce que David avait à cœur. Et voyez comment si facilement on peut entrer un bien dans un jugement. On a la détente facile pour juger. Hein. Où est-ce que ça me concerne que moi ? On est là pour laisser la parole encore nous juger. On est là encore pour laisser la parole couper, émonder. Si la parole ne nous fait rien, depuis un certain temps, il faut se poser des questions. Mais si elle dérange, si elle nous gêne, c'est bon signe. Parce qu'elle est en train de nous travailler. Romains chapitre 14 et le verset 10. Regardez ce passage. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère ou ta sœur? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Vous voyez, c'est intimement lié, le jugement et le mépris. Puisque de toute façon, nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Pour ça qu'il est très difficile, ne nous hâtons pas dans un jugement, ne nous hâtons pas à pouvoir mépriser. Il n'y a que Dieu seul qui connaissait ce qui se passait dans le cœur de David. Un autre passage qui pourrait compléter ce précédent verset, 1 Corinthiens chapitre 4, verset 5. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps. Voilà un conseil que Dieu nous donne. Ne jugez de rien avant le temps. Jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui de toute façon mettra en lumière ce qui est caché ou dans les ténèbres, et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors, chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. C'est tellement important de respecter l'autre dans sa façon de louer, dans sa façon de pouvoir adorer son Dieu. Il n'y a que Dieu qui voit. Ne nous hâtons pas dans des jugements. S'il y a quelqu'un à juger, c'est peut-être bien nous-mêmes par rapport à ce que le Saint-Esprit nous montre au plus profond de notre cœur. Parlant du mépris, notre Sauveur Jésus-Christ lui-même a connu le mépris. Et pas qu'une fois. J'ai l'impression que le mépris l'a accompagné tout au long de sa vie terrestre. C'est d'ailleurs ce qui avait été déjà annoncé par le prophète Ésaïe, d'une manière prophétique, 8 siècles avant sa venue. Il nous est dit dans Ésaïe chapitre 53 et le verset 3 que concernant Jésus, il serait méprisé et abandonné des hommes. Un homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné lorsque nous manifestons le mépris à l'égard de quelqu'un, on le dédaigne. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Vous savez que Jésus est né à Bethléem. Mais son enfance, il l'a passée dans la ville de Nazareth. Et à un moment donné, Jésus a voulu se révéler un peu plus à ceux qui l'ont vu finalement grandir. Et un jour qu'il rentre dans cette fameuse synagogue, il lit le passage, vous savez, d'Ésaïe, où il rappelle « L'Esprit du Seigneur est sur moi et il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, etc. » Et les gens n'ont pas compris le message que Jésus voulait leur faire passer. Et forcément, il y a eu le jugement, forcément, il y a eu le mépris. On a dit, mais c'est qui ce jeune homme? On l'a vu grandir. On l'a vu parmi les autres enfants. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Et ils étaient tellement outrés qu'ils ont pris Jésus et ils ont voulu le précipiter du haut de la montagne parce que Nazareth est construite sur une colline. Mais Jésus, ce n'était pas son heure et il a pu passer au travers d'eux. Oui, Jésus a connu le mépris. Il a connu le mépris lorsqu'il est arrivé devant Hérode. Un passage que j'ai relevé pour vous quand il nous est dit, Luc chapitre 23, verset 11, regardez ce qu'il est dit. Hérode, le roi Hérode, avec ses gardes, le traita avec mépris. Et après s'être moqué de lui et l'avoir revêtu d'un habit éclatant, il le renvoya à Pilate. Le mépris va forcément amener aussi donc la moquerie. Et je pourrais continuer, même sur la croix, on a méprisé le Seigneur. Si tu es vraiment le Fils de Dieu, alors descends. Que d'arrogance, que de mépris dans le cœur. Vous savez, c'est clair et net, le mépris est un sentiment hostile, un sentiment agressif. Il est l'opposé de la bienveillance. Avez-vous vu, pour revenir à notre histoire, comment Michal a accueilli David, son époux? Ce dernier, plein de joie et désirant bénir sa maison, relisez le texte. Il avait l'intention de bénir, mais quelle douche froide! Quand il a passé le seuil de la porte de sa propre maison, son épouse qui l'accueille avec des mots qui manquaient, c'est le cas de le dire, un peu de tact et de douceur. Mais je vais vous le dire, Lorsque nous nous appliquons à plaire à Dieu, nous nous attirerons un jour ou l'autre le mépris de certains. C'est incontournable. On l'a fait pour le Seigneur. Pourquoi voudrions-nous aujourd'hui nous en soustraire? On ne va pas chercher ces choses, mais c'est incontournable. Mical, pour moi, est finalement quelque part l'image du monde qui ne peut comprendre les chrétiens qui marchent à contre-courant de l'esprit de ce monde. Et souvent, à cause de cela, nous sommes soit qualifiés de fous, soit qualifiés d'illuminés. À qui c'est déjà arrivé, ça? Les gens ils disent, mais vous venez d'où? Vous êtes de la planète Mars? Vous êtes des extraterrestres? Quoi, tu viens chaque dimanche, chaque mardi, chaque vendredi? J'ai vu des gens me regarder comme si on emmenait un animal à l'abattoir, au peu cher. Ils ne comprennent pas, parce que les incroyants n'ont pas l'Esprit de Dieu. Ils ne peuvent comprendre les choses spirituelles. Nous sommes dans une autre dimension. C'est pour ça que la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14, cette vérité que j'expose devant vous, l'homme animal, ou d'autres versions disent l'homme naturel, ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. À un moment donné, on a emmené Paul devant un certain roi, le roi Agrippa. Et ce roi Agrippa était aussi accompagné par le gouverneur romain. À l'époque, c'était un certain Festus. Et ce Festus, à un moment donné, quand il a entendu juste le discours de l'apôtre Paul, il va dire « Tu es fou, Paul, ton grand savoir te fait déraisonner. » On est au beau milieu de ce week-end, le long week-end de la Pentecôte. Quelque chose d'extraordinaire s'est passé dans cette chambre haute. Ils étaient environ 120 réunis et le Seigneur littéralement est descendu par le Saint-Esprit. N'était-ce pas la promesse que Dieu avait faite à son peuple? Et il persévérait pendant 10 jours dans cette attente. Seigneur, ta promesse, elle va s'accomplir. Et plaise à Dieu que ce vendredi 21, le Saint-Esprit descende sur nous. Et tout à nouveau nous consume et nous donne d'être bouillants pour lui. Beaucoup ont été émerveillés. Beaucoup de juifs ont été interpellés, la preuve, puisque ce jour même, des milliers de juifs se sont convertis à l'évangile de Jésus-Christ. Mais il faut aussi rappeler que ce même jour-là, beaucoup ont choisi la moquerie, parce qu'il y avait la mépris également dans leur cœur. Ils disaient, mais ces gens-là, ils sont pleins de vin doux, parce qu'ils entendaient parler dans d'autres langues. Ils ne pouvaient comprendre ce qui se passait. Frères et sœurs, ne soyons pas surpris par les moqueries et même le mépris du monde. Que jamais cela nous empêche de vivre notre vie chrétienne avec joie et assurance. Veillons plutôt à ne pas tomber dans le piège du mépris. Et j'en ai bientôt terminé, car on le voit bien dans le texte que nous avons lu, ce qui est arrivé à notre ami Mical, 2 Samuel chapitre 6 verset 23, c'est le dernier verset qu'on a lu tout à l'heure en introduction. Or Mical, fille de Saül, n'eut point d'enfant jusqu'au jour de sa mort. C'est l'une des conséquences du mépris. Quelle est cette conséquence? C'est ni plus ni moins une stérilité spirituelle. Tant de chrétiens, malgré leur volonté, malgré leur effort, et j'ose dire leur sincérité, ne portent aucun fruit dans leur vie spirituelle juste à cause de la présence du mépris dans leur cœur. C'est tellement facile de mépriser. Et on le voit dans ce cas-là. Donc Mical qui méprise son conjoint, mais on peut mépriser nos enfants, on peut mépriser nos parents, on peut mépriser le frère ou la sœur, qui est peut-être même à nos côtés. C'est tellement facile de pouvoir mépriser. Vous savez, même le refus d'obéir à la parole de Dieu, c'est une forme de mépris vis-à-vis de Dieu. Sans dire aucun mot, c'est comme si on disait au Seigneur, je comprends, j'entends ce que tu dis, mais ça ne m'intéresse pas. Quoi, pardonner? C'est à l'autre de venir. Jamais! Et ce n'est pas une forme de mépris? Le mépris, c'est donc de refuser d'obéir à la parole de Dieu, même lorsque nous persistons dans une forme d'incrédulité. Je ne dis pas de doute, on peut être surpris par le doute, et d'ailleurs un doute qu'on n'entretient pas. Mais on peut s'installer dans une forme d'incrédulité. Mais inconsciemment, c'est une forme de mépris que nous exprimons directement à Dieu. Un verset pour le confirmer, Nombre chapitre 14 et le verset 11. Nombre chapitre 14, verset 11. L'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il ? Comment ce peuple méprisait Dieu ? Ah ben la réponse, elle est juste après. Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui ? C'est un affront, c'est une blessure qu'on inflige directement au cœur de Dieu. Mon propre enfant n'a pas confiance en moi. Et il se laisse, et où elle se laisse, eh bien, embarquer, emmener, eh bien, loin de cette confiance à laquelle eh bien, je l'appelle à pouvoir manifester. Frères et sœurs, que Dieu nous assiste par sa grâce et surtout par son Esprit Saint et qui nous aide à pouvoir combattre eh bien, le mépris, qui nous aide à rejeter toute forme de mépris, tant vis-à-vis de Dieu que vis-à-vis eh bien, du prochain, quel qu'il soit. Que pourrais-je dire en conclusion, si ce n'est que, je l'ai dit au départ et je le redis là à la fin, je n'ai pas voulu faire un procès concernant cette femme Mical. Pourquoi ? Parce que c'est le temps qui me manquerait pour eh bien, vous donner à découvrir cette femme qui est des plus extraordinaires, une femme qui est courageuse, c'est Mical. Une femme qui aimait son mari, c'est Mical. C'est le temps qui me manquerait pour vous expliquer le contexte. Mical était ni plus ni moins la fille de Saül, qui était à l'époque roi d'Israël. Et Mical eh bien, avait été donnée à David parce que ce dernier avait littéralement liquidé Goliath. Et il lui a été donné eh bien, la deuxième fille de Saül. Et la Bible nous précise que Mical aimait Saül. Et on le voit bien puisque Saül, le roi de l'époque, haïssait eh bien, David et cherchait même à le tuer. Mais Mical, à plusieurs reprises, a fait tout pour sauver son mari. À un moment donné, elle a même fait eh bien, sortir son mari par la fenêtre pour qu'il soit épargné d'une mort certaine. Parce que Saül avait déjà dépêché eh bien, ses soldats de pouvoir liquider eh bien, David. Non, c'était une femme reconnaissante. Une femme qui aimait eh bien, son mari. Et puis alors, comme David était là et poursuivi par Saül, eh bien, à un moment donné, Saül, bien plus tard, a donné Mical à un autre homme. Pourquoi je vous explique tout ça ? Parce que, juste pour vous dire que cette femme, elle a, quand on regarde sa vie, elle a eu quand même une vie compliquée. Pour ça, il ne faut pas ce matin lui jeter la pierre à aucun moment. Elle a eu des épreuves, elle a eu des moments difficiles et je me rends compte avec vous que sans s'en rendre compte, cette femme a laissé glisser au plus profond de son cœur peut-être de l'amertume, c'est pas écrit dans le texte, mais je le suppose avec vous. Mais pas seulement de l'amertume, mais en tout cas du mépris, puisqu'elle l'a manifesté même à l'égard de son propre conjoint. Mical était une femme blessée, une femme qui a été ballottée à droite à gauche. Elle a eu du mal à pouvoir affronter les épreuves et les adversités qu'a été eh bien, son partage. En fait, la vie de cette femme est vraiment un avertissement pour chacun d'entre nous, afin que, à notre tour, nous ne nous laissions pas happer par les adversités et les épreuves de la vie. Que nous ne laissions pas les épreuves, même les tentations de l'ennemi, venir déformer notre cœur, venir eh bien, semer dans notre cœur des choses qui auraient des conséquences sur nous, mais aussi sur les autres. Parce que ça a été le cas de Mical. Et si même ce matin, il y aurait quelque amertume ou même quelque mépris dans votre cœur pour quiconque, Dieu a voulu ce matin que je puisse partager ce texte pour te dire qu'il y a encore espoir et que le Seigneur, il vient au-devant de toi. Et il est en mesure de pouvoir t'aider à bien sortir tous ces mauvais sentiments de ton cœur et au contraire te remplir, puisqu'on est dans ce cadre de ce week-end de Pentecôte, à te remplir pleinement de son Esprit Saint. Soyez pas enivrés de vin, au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Mais pour être rempli du Saint-Esprit, il faut déjà laisser le Seigneur nous vider de nous-mêmes, de tout ce qui n'est pas à sa gloire. Et peut-être que le mépris est ton partage. Peut-être que tu t'es identifié eh bien, à Mical ce matin et peut-être que tu dis « Oui, je suis cette femme-là. » Et Dieu seul connaît ton cœur, mon frère, ma sœur. Et tu en es rendu à voir la vie amère et insidieusement, peut-être même inconsciemment, mépriser même tous ceux eh bien, qui t'entourent et qui te sont proches. Dieu veut t'apporter la guérison ce matin. Dieu te dit qu'il est là présent. C'est pour ça qu'il a placé ces choses sur mon cœur. C'est pour ça qu'il voulait aujourd'hui même que je puisse partager ces choses On va baisser les têtes, on va fermer les yeux. Et pendant quelques instants, quelques secondes, ressassez ce que nous venons d'entendre de la part de Dieu. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais c'est nous qui ne prenons point garde. Il est finalement en train de te donner la réponse qui agite ton cœur et qui t'empêche d'avoir la paix. Ce matin même, il avait choisi de pouvoir te donner la clé. Et la clé, c'est Jésus. La clé, c'est de pouvoir permettre au Saint-Esprit de te convaincre de l'intérieur qu'il faut que tu abandonnes ces vieilles choses, comme le mépris, que tu le déposes au pied du Seigneur. Ne t'inquiète pas, tout comme Michal, Dieu connaît ton parcours. Dieu seul sait combien tu as vécu des injustices, combien tu as été ballotté à droite à gauche. Mais il te demande aujourd'hui de répandre ton cœur devant lui, d'implorer sa grâce, d'implorer son pardon. Et lui en retour, non seulement te guérira de l'intérieur, mais mieux encore, te permettra de te relever afin de porter beaucoup de fruits. Ça n'a pas été le cas de Michal. On aurait pu peut-être penser qu'elle soit revenue vers son conjoint et trouver réconciliation près de lui. Je pense que Dieu lui aurait fait grâce. Mais il faut croire, parce qu'elle était stérile finalement toute sa vie, qu'elle est restée sur sa position. Elle s'est endurcie. Et je te dis de la part du Seigneur, ne t'endurcis pas. Mais aujourd'hui même, à l'écoute de la voix de Dieu, laisse Dieu maintenant s'occuper de ton cœur. Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Alors que ce n'était pas prévu, je voudrais donner l'occasion à quelqu'un ou à quelqu'une de pouvoir dire à Dieu, c'est moi. De pouvoir, tout comme David, peu importe ce que les autres peuvent dire, peu importe ce que les gens peuvent penser, devant l'Éternel, se présenter et dire, Seigneur, viens, secours-moi. Et ce que je voudrais, c'est tout simplement, si une personne voulait que je prie avec elle, que vous puissiez lever votre main et très rapidement la rebaisser. C'est ça qu'il faut enlever dans ton cœur. C'est ça la pierre d'achoppement. Dieu sait que tu l'aimes. Tu ne serais pas là ce matin. Mais il te donne la réponse. Il te donne la solution. Et une page sera tournée. Et dans le nom de Jésus, tu avanceras, tu progresseras. Tu seras béni de la part du Seigneur. Seigneur, tu vois, ces personnes qui se sont manifestées, jamais ta parole est prononcée en vain. Il y a toujours, Seigneur Père, mon Dieu, une part pour chacun d'entre nous. David s'est soucié de donner une portion à chacun. Et ce matin, tu nous as donné le pain de vie. Et je te prie dans ta grâce de pouvoir, Seigneur, nourrir le cœur affamé, assoiffé, de voir un changement, de voir les choses, Seigneur Père, progresser, et afin que seul l'ennemi soit dans la confusion. Seigneur Père, tu vois le besoin de mes frères et mes sœurs, tu vois les besoins de ceux et de celles qui ont levé la main. Je te prie d'intervenir, de te glorifier au nom de Jésus. Et Seigneur, de les libérer de tout, Seigneur, qui pourrait, Seigneur, leur faire mal au plus profond d'eux-mêmes. Leur montrer, Seigneur, mon Dieu, le chemin à suivre, afin qu'avec une grande sagesse, ils puissent se dégager de toute forme de piège. Et s'il y avait quelques mépris, s'il y avait quelques paroles mauvaises, s'il y avait quelques paroles agressives, Seigneur, tu les aides, Seigneur Père, non seulement, Seigneur Père, à confesser ces choses, mais à les abandonner. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et qui les délaisse obtient miséricorde. Seigneur mon Dieu, je te prie d'accorder, Seigneur, ta grande miséricorde à tous ceux, celles qui se sont manifestés ce matin. Fais grâce, guéris ton peuple, fortifie-le, sanctifie-nous. Seigneur, nous te demandons, Seigneur Père, mon Dieu, de travailler encore nos cœurs, Seigneur. Tu es un Dieu plein de patience, plein de miséricorde, et tu veux que nous ne restions pas pour compte, que nous ne soyons pas, Seigneur Père, mon Dieu, oh Seigneur, mon Dieu, sur cette terre quand tu reviendras, mais que nous puissions décoller et te rejoindre sur les nuées. Seigneur, tu viens au secours de tous ceux et celles qui se sont manifestés, au nom de Jésus-Christ. Amen.